Avant de nous lancer dans ce sujet, il est nécessaire de nous entendre à propos de ce que nous comprenons par le terme « culture ». Il n'y a pas si longtemps, le terme « culture » renvoyait à ce que nous entendons maintenant par « haute culture ». Par exemple, on aurait pu dire au sujet de quelqu'un « sa voix est tellement cultivée ». Si quelqu'un lisait Shakespeare, Goethe, Gore Vidal, Voltaire ou Flaubert, et qu'il écoutait de la musique de Bach ou de Mozart, tout en lisant un petit volume de poésie, le tout bien arrosé d'un chardonnay léger, cette personne était cultivée. Si elle lisait des romans policiers bon marché, Astérix et Agatha Christie, ou mieux encore si elle ne lisait pas du tout, en sirotant un bière ou un coca, tout en écoutant du ska ou du heavy metal, et en surveillant du coin de l'œil l'écran d'une Xbox avec le jeu violent le plus récent, cette personne était inculte. Mais une telle compréhension de la culture doit tôt ou tard être remise en cause par ceux et celles qui croient que la haute culture est une forme d'élitisme, quelque chose d'intrinsèquement arrogant et condescendant. Pour ces gens, le contraire de la haute culture n'est pas la basse culture, mais la culture populaire, sur la base de valeurs démocratiques. Mais même cet appel à la culture populaire n'est pas très utile pour notre propos parce qu'elle ne renvoie qu'à une partie de ce qu'on appelle la culture. Il doit vraisemblablement exister plusieurs formes de culture impopulaire. Au niveau populaire, le terme culture est devenu une idée assez élastique, signifiant à peu près un ensemble de valeurs communes à un sous-ensemble de la population humaine. Ce n'est pas si mal. On pourrait certainement améliorer cette définition en la resserrant quelque peu. La définition de Redfield est brève, succincte et pertinente. Des compréhensions communes perceptibles dans des actes et artefacts. La définition de Goetz, ici en Europe, maintes fois citée, joint la concision à la clarté. Citation. L'idée de culture dessine un motif transmis à travers l'histoire de signification, personnifié en des symboles, un système de conception dont on a hérité et qui sont exprimés sous forme symbolique grâce auxquelles les gens sont communiqués, perpétués et développés leurs connaissances au sujet de la vie et de leurs attitudes envers celle-ci. On pourrait sans aucun doute raffiner ces définitions et en débattre les détails. En effet, une minorité importante d'anthropologues, de même que d'autres personnes, se méfient de l'idée même de culture. Ils offrent deux raisons. J'évite la première pour préserver un peu de temps. La deuxième, c'est que toute tentative de discussion entre Christ, et donc le christianisme, et la culture tient de l'incohérence. Puisque toutes les formes de christianisme sont intrinsèquement et inévitablement incrustées à l'intérieur d'une forme culturelle. Comment peut-il avoir dialogue lorsqu'il n'y a qu'un seul partenaire? Je tenterai de répondre à certaines de ces questions dans le livre qui sortira de cette conférence, mais à ce moment, je vais laisser ces questions à côté. Je vais essayer de raffiner la notion de culture dans quelques instants. Il suffit pour le moment de noter que mon propre emploi du terme culture se niche à l'intérieur du cadre des définitions mentionnées précédemment et que les définitions présupposent qu'il existe plusieurs cultures. On ne peut nier le fait que toutes les expressions de la foi, qu'elles soient chrétiennes ou autres, s'expriment sous forme culturelle. Les conséquences d'une telle pensée vis-à-vis de la possibilité d'un dialogue entre le christianisme et la culture reste à définir. Quelques remarques sur le défi contemporain. Dans le changement de l'ancienne alliance vers la nouvelle, le peuple de l'alliance est passé du fait d'être une nation liée par l'ancienne alliance à celui d'être un peuple international lié par une nouvelle alliance. Ceci a inévitablement à s'interroger au sujet des relations que devait maintenant avoir ce peuple avec les peuples environnants qui n'étaient pas membres de la nouvelle alliance. En termes politiques, les anciens croyants se constituaient une nation. Par contre, les chrétiens ont dû réfléchir et établir les relations entre l'Église et l'État, entre le royaume de Dieu et l'Empire romain. Des réponses quelque peu différentes ont vu le jour selon les circonstances. Même dans le Nouveau Testament, il suffit de comparer, par exemple, Romains 13 et Apocalypse 19. Mais les problèmes auxquels l'Église a dû faire face en étant une communauté internationale dont l'allégeance ultime était un royaume qui n'est pas de ce monde, ont été beaucoup plus que des problèmes gouvernementaux. Il s'agissait maintenant de savoir si les chrétiens devaient ou non prendre part à des coutumes sociales normales lorsque celles-ci possédaient des connotations religieuses, par exemple 1 Corinthiens 8. Le style de direction, par exemple Matthieu 20 à 28. Comment répondre à des attentes au plan des relations, Philémon? Comment réagir face à la persécution, par exemple Jean 15, 18 à 16, 4, et Apocalypse 6 et plus encore. Toutes ces dynamiques ont changé avec la venue de Constantin, évidemment. Mais ceci ne signifie pas qu'à partir du début du 4e siècle, toutes les tensions ont disparu et que tous les débats ont été clos. Comment faire face à la persécution officielle est certes devenue une question moins pressante suite à l'accession au trône par Constantin. Mais d'autres questions ont fait surface. Par exemple, la théorie de la guerre juste, déjà discutée par Cicéron d'un point de vue païen, a revêtu des couleurs distinctement chrétiennes lorsque les chrétiens eurent à prendre leurs responsabilités au plan et de la direction politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit le maître. Et tirer les conclusions nécessaires d'une telle parole dans le contexte du corpus complet des documents du Nouveau Testament ne devait que difficilement trouver de solution satisfaisante en une ou deux générations. Si nous considérons seulement le domaine politique, les chrétiens ont produit une quantité imposante de littérature en tentant d'établir des relations convenables entre Christ et la culture. Il y a un gros livre de sources d'à peu près 1800 pages, rédigé par Oliver O'Donovan et son épouse, si vous voulez voir les sources vous-même, entre Constantin et Grotius. Voilà un bon livre. Toutefois, il n'est pas de mon propos de traiter de l'historique de ces débats, sauf de noter au passage que nous ne devons jamais succomber à la tentation de croire que nous sommes la première génération de chrétiens à nous intéresser à ces sujets. Mon attention se porte plutôt vers la façon dont nous devrions réfléchir au sujet des relations entre Christ et la culture maintenant, en ce débat de 21e siècle. Nous possédons les mêmes textes bibliques que les générations chrétiennes précédentes ont examinés, évidemment, mais nos réflexions sont façonnées par plusieurs facteurs uniques. J'en mentionne seulement deux ou trois. J'ai une quinzaine ici, mais je les laisse à côté. Dans la plupart du monde occidental, quoique certainement pas ailleurs, le christianisme connaît un fort déclin. Ceci signifie que nous sommes obligés de réfléchir encore une fois ce que doivent être les relations entre Christ et la culture, quand notre influence s'abaisse. Encore, l'histoire actuelle des tensions entre l'Église et l'État varie énormément d'un État à l'autre dans le monde occidental et au-delà, ce qui rend difficile toute généralisation ou même de présenter des exemples sans devoir fournir de nombreux avertissements. Par exemple, le maintenant célèbre mur de séparation entre l'Église et l'État vient teindre tous les débats aux États-Unis, mais un tel mur n'existe pas au Royaume-Uni, même si on trouve là-bas des libertés similaires. En France, la laïcité française provient en partie d'un anticléricalisme solidement enraciné dans l'histoire et qui ne trouve aucun parallèle, sauf très récemment, dans les pays scandinaves, par exemple, ou aux États-Unis. Pendant ce temps, d'une certaine manière, le monde est devenu plus fortement religieux. Dans le monde occidental, plus encore dans l'Europe qu'en Amérique du Nord, ceci se traduit par un nombre croissant de musulmans. Une tendance destinée à se maintenir, étant donné que le taux de natalité parmi la population européenne traditionnelle n'est pas assez élevé pour simplement se maintenir dans un seul pays européen. Et évidemment, chacun de nous, de nos jours, rencontre des bouddhistes, des hindous, des sikhs et même des animistes, de même que des gens très sécularisés. Comme le dit le nouveau slogan, personne ne laisse personne être tout seul et ne le laissera jamais. La multiplicité des prétentions religieuses est là pour rester et les gouvernements devront s'y faire. L'urgence de réfléchir de nouveau au sujet de Christ et de la culture se fait sentir de plus en plus, même à ce niveau. Ceci nous amène donc à nous souvenir de l'utile taxonomie de Niebuhr au sujet de ses possibilités. Certainement la personne qui a le plus puissamment influencé la discussion contemporaine dans l'Occident et surtout parmi les anglo-saxons est Niebuhr dans son livre « Christ et culture » publié en 1951. Je tenterai maintenant de décrire les options qu'il nous présente de façon assez soignée et l'évaluation devra attendre à la prochaine conférence. Niebuhr nous présente 5 options. Chacune d'entre elles s'étendant sur un chapitre et les 5 options sont enveloppées d'une longue introduction et d'un post-scriptum non scientifique. Le but du livre, écrit Niebuhr, est de présenter des réponses chrétiennes typiques aux problèmes de Christ et de la culture et ainsi de contribuer à la compréhension mutuelle de groupes chrétiens variés et souvent d'opinions contradictoires. À la source de cet effort, cependant, se trouve la conviction que Christ, en tant que Seigneur vivant, répond à cette question dans l'ensemble de l'histoire et de la vie d'une manière qui transcende la sagesse et de tous les interprètes, quoiqu'employant leurs idées partielles et leurs conflits nécessaires. Niebuhr est bien conscient du fait que s'il doit parler de Christ et de la culture, il devra utiliser des définitions raisonnablement claires au sujet des termes Christ et culture. Il consacre plusieurs pages à chacun de ces deux termes. Il est bien conscient que chaque compréhension de Christ est au mieux partielle. Aucune confession ne dit absolument tout, reproduisant ainsi la vérité objective, selon lui, l'essence de Jésus-Christ. Néanmoins, il insiste, si nous ne pouvons rien dire de façon adéquate, nous pouvons dire certaines choses de façon inadéquate. Quoique toute description soit une interprétation, elle peut être une interprétation de la réalité objective. On peut décrire Jésus-Christ, l'autorité chrétienne, même si toute description ne peut être complète et ne réussit nécessairement pas à satisfaire d'autres qui l'ont rencontré. Autant ces définitions peuvent être disparates et complémentaires, Jésus, il décrit, ne peut jamais être confondu avec Socrate, Platon, Aristote, Gautama, Confucius ou Mohammed, ou même avec Amos et Ésaïe. L'approche de Niebuhr quant à ce que signifie Christ dans son titre, Christ et culture, suscite une réflexion initiale. Pour lui, Christ n'est pas infiniment élastique. Il n'inclut aucun ariant fondamentaliste, tel que les témoins de Jéhovah. Il n'inclut pas non plus le Jésus mormon. Cependant, la gamme d'interprétations de Christ qu'il adopte est sans aucun doute trop vaste si l'on tente de se limiter aux formes du christianisme confessionnel qui tente ouvertement et consciemment de vivre sous l'autorité des Écritures. Par conséquent, certains éléments de sa compréhension par rapport aux possibilités des relations entre Christ et la culture devraient, je crois, être exclus, là où ils sont façonnés par une connaissance franchement en deçà des Écritures quant à savoir qui est Christ. De toute évidence, j'y reviendrai dans quelques instants. En traitant de ce qu'il entend par culture, Niebuhr désire éviter les débats techniques des anthropologues. La culture à laquelle nous nous intéressons, dit-il, citation, n'est pas un phénomène particulier mais général, même si une chose générale n'apparaît que sous forme particulière, et même si un chrétien de l'Occident ne peut réfléchir à ce sujet qu'en termes occidentaux. Il écrit ensuite, ce que nous entendons lorsque nous traitons de Christ et de la culture est ce processus entier de l'activité humaine et le résultat total d'une telle activité que l'on nomme tantôt culture, tantôt civilisation en langage courant. La culture est cet environnement artificiel, secondaire, que l'être humain superpose à ce qui est naturel. Cela inclut le langage, les habitudes, les idées, les croyances, les coutumes, l'organisation sociale, les artefacts dont on hérite, les procédés techniques et les valeurs. Cet héritage social, cette réalité sui generis, que les auteurs du Nouveau Testament avaient fréquemment à la pensée lorsqu'ils parlaient du monde, et qui représenté sous plusieurs formes, mais auxquelles les chrétiens, tout comme les autres personnes, sont assujettis, est ce que nous signifions lorsque nous parlons de culture. De plus, bien que Niebuhr refuse de parler de l'essence de la culture, il est prêt à en décrire certaines des caractéristiques principales. Elle est toujours sociale, c'est-à-dire elle est rattachée à la vie humaine en société. Elle est une réalisation humaine, supposant la détermination et l'effort. Elle est liée à un monde de valeurs qui, de façon prédominante, sont perçues comme étant pour le bien de l'être humain. Et il écrit, la culture sous toutes ses formes et variétés traite de la réalisation temporelle et matérielle des valeurs. Et ainsi, puisque la réalisation de ces valeurs est accomplie dans des choses passagères et périssibles, l'activité culturelle se préoccupe presque autant de la conservation des valeurs que de leur réalisation. Voici sa définition. La définition que Niebuhr donne de la culture comprend les idées et les croyances, de même que les coutumes, l'organisation sociale, et ainsi de suite. À première vue, si la culture inclut les idées, les croyances, les valeurs, les coutumes et tout le reste, il est difficile de voir comment elle peut ne peut inclure le christianisme. Et dans ce cas, encore une fois, il est difficile de voir comment on peut analyser la relation entre Christ et la culture lorsque, selon cette définition, Christ semble être inclus dans la culture. Niebuhr échappe à cette difficulté en restreignant la culture au domaine de la, citation, « réalisation temporelle et matérielle des valeurs » et en associant la culture à ce que le Nouveau Testament signifie par le terme « monde ». C'est-à-dire, par culture, il entend quelque chose comme la culture dénuée de Christ. Ensuite, alors que la discussion s'engage et qu'il explique ce que pourrait être la relation entre Christ et la culture, cette culture pourrait, par exemple, être transformée par qu'elle ne serait pas une culture dénuée de Christ, mais être quelque chose qu'elle n'était pas auparavant, une culture transformée par Christ. L'instabilité de la terminologie de la culture est palpable à ce point-ci. Ce qui devient évident, il me semble, et ça c'est important maintenant pour ma discussion, c'est que Niebuhr parle moins de la relation entre Christ et la culture que de deux sources d'autorité qui se livrent bataille à l'intérieur de la culture, à savoir Christ, peu importe à cet instant la façon dont on le comprend à l'intérieur des divers paradigmes des courants dominants de la chrétienté, et toute autre source d'autorité privée de Christ, quoique Niebuhr pense principalement à l'autorité séculière ou civile, plutôt qu'à l'autorité dont se réclament les religions rivales que nous devons confronter aujourd'hui. Si nous ne prenons pas conscience que Niebuhr situe ses pôles selon ses critères, la suite de ses propos, bien qu'élégants, deviennent tout simplement incohérents. Notre tâche présente, toutefois, est de tenter de comprendre son paradigme en cinq temps, selon ses propres termes, avant d'y réfléchir à nouveau. Ainsi, à ce point-ci, j'emploierai sa terminologie. Je vais le changer un peu demain. Premièrement, donc, le Christ contre la culture. Que Niebuhr définisse Christ et culture selon les critères où s'affrontent des prétentions rivales vis-à-vis de l'autorité est remarquablement illustré dans son sommaire du premier paradigme. Citation, la première réponse à la question de Christ et de la culture que nous examinerons est celle qui affirme sans concession l'unique autorité de Christ sur le chrétien et qui rejette la prétention de la culture être loyale à celle-ci. On retrouve cette position dans le livre d'Apocalypse, dit-il, où elle est ressentie de manière encore plus vive en raison de la menace de la persécution qui pèse sur les chrétiens. Mais elle est aussi représentée dans 1 Jean, il dit, malgré son exposé profond au sujet de la doctrine de l'amour, c'est cet épître qui déclare Dieu est amour, néanmoins, l'intérêt principal de l'auteur écrit Niebuhr, est autant la seigneurie de Christ que l'idée de l'amour. La loyauté envers Christ engendre des répercussions dans les domaines doctrinal, moral, social. De plus, il écrit, l'équivalent de la loyauté à Christ et aux frères est le rejet de la société culturelle. Une nette ligne de séparation a été tracée entre la fraternité des enfants de Dieu et le monde. Néanmoins, cette position de Christ contre la culture n'a pas encore atteint sa forme la plus radicale, puisque Jean tient aussi pour assurer que Jésus-Christ est venu expier les péchés du monde. Tertullien l'énonce de façon radicale. Les chrétiens constituent une troisième race, dit-il, différente des juifs et des gentils, et sont appelés à vivre une vie tout à fait séparée de la culture. Effectivement, déclare Niebuhr, Tertullien remplace l'éthique positive et chaleureuse de l'amour qui caractérise la première épître de Jean par une moralité en grande partie négative. Éviter le péché et se préparer dans la crainte au jour du jugement qui vient semble plus important qu'une acceptation reconnaissante de la grâce de Dieu pour le don de son Fils. Inévitablement, donc, le rejet par Tertullien des prétentions de la culture est particulièrement vif. Et la pire chose dans la culture est la religion païenne, surtout lorsqu'elle se trouve être le reflet de l'idolâtrie, du polythéisme, des fausses croyances et des rites, de la sensualité et de la commercialisation. Mais cette religion englobe tout dans l'ancien monde, de telle sorte que, pour le chrétien, la politique est quelque chose que l'on doit fuir, de même que le service militaire, la philosophie et les arts. Bien sûr, l'étude est importante pour le croyant, de telle sorte qu'apprendre la littérature est permis pour les croyants, mais non pas l'enseigner, parce que l'enseigner entraîne l'enseignant à recommander la littérature, de telle sorte que l'on en vient à recommander et à soutenir les louanges des idoles qui y sont parsemées. Bien sûr, Tertullien ne peut être aussi cohérent à l'intérieur de cette position Christ contre la culture qu'il semble l'être, car il rejette l'accusation à l'effet que les chrétiens sont inutiles dans les choses de la vie, parce que, comme il indique, « nous voyageons avec vous dans le monde, reniant ni le forum, ni les abattoirs, ni les bains, ni les baraques, ni le marché hebdomadaire, ni aucun autre endroit de commerce. Nous faisons voile avec vous, nous combattons avec vous, nous travaillons le sol avec vous, et de même, nous sommes unis à vous dans vos commerces, et même dans les différents arts, nous faisons don de nos œuvres à la communauté afin de contribuer à votre bien-être. Cependant, comme l'indique Niebuhr, ceci est dit pour soutenir sa propre défense, tandis que lorsqu'il avertit les croyants, le conseil de Tertullien est avant tout de se retirer de plusieurs rencontres et de plusieurs emplois. Niebuhr médite à l'effet que cette position est à la fois nécessaire et inadéquate. Sa position est souvent héroïque, elle a des principes, elle est moralement robuste, et sans compromis. Cependant, quoique inévitable, cette position est inadéquate. Les chrétiens les plus radicaux doivent inévitablement utiliser la culture. Niebuhr écrit, dans presque chacune de ses déclarations, Tertullien manifeste qu'il est un Romain, tellement éduqué dans la tradition légale et dépendant de la philosophie qu'il ne peut présenter sa cause sans leur aide. De même, Tolstoï n'est intelligible que comme un russe au XIXe siècle. Niebuhr perçoit quatre problèmes théologiques dans cette position. Numéro 1, il existe une tendance dans de tels mouvements radicaux à employer le mot « raison » comme faisant référence aux méthodes et au contenu de la connaissance à l'intérieur de la culture et le mot « révélation » comme renvoyant à leur propre foi chrétienne. Malheureusement, cependant, ils ne peuvent résoudre leurs problèmes de Christ et de la culture sans reconnaître que des distinctions doivent être faites à la fois au sujet du raisonnement prenant place à l'extérieur de la sphère chrétienne et au sujet de la connaissance que l'on y trouve. Deuxièmement, Ces radicaux donnent l'impression que le péché abonde dans la culture, tandis que la lumière et la piété s'attachent aux chrétiens. Mais ceci ne tient pas suffisamment compte du fait que le péché se trouve chez les chrétiens aussi, comme Alain Nissu a expliqué. Ceci ne tient pas suffisamment compte du fait que le péché se trouve chez les chrétiens, tout comme on le reconnaît par la grâce commune, quoique l'expression ne soit pas de Niebuhr, amplement démontrée dans le monde. Troisièmement, cette position tend souvent à se défendre avec de nouvelles lois, de nouvelles règles de conduite, qui sont tellement rigides et tellement précises que la grâce elle-même semble rétrograder au deuxième ou au troisième rang. Finalement, avant tout, le problème théologique le plus épineux associé à cette position, selon Niebuhr, est la relation entre Jésus-Christ, au Créateur de la nature, et le gouverneur de l'histoire, et entre l'Esprit immanent dans la création et dans la communauté chrétienne. Ceci constitue en partie un défi trinitaire. Même plus, c'est une tentation de convertir leur dualisme éthique en une bifurcation ontologique de la réalité qui mène au montanisme, à la lumière intérieure du Quakerism ou le spiritualisme de Tolstoï. Deuxièmement, le Christ de la culture. Premièrement, Christ contre la culture, maintenant le Christ de la culture. Cette deuxième position est adoptée par des gens qui acclament Jésus comme étant le Messie de leur société, celui qui réalise leurs meilleurs espoirs et leurs plus hautes aspirations. Ils sont chrétiens non seulement en ce qu'ils se disent croyants dans le Seigneur, mais aussi en ce qu'ils cherchent à maintenir une communion avec tous les croyants. Toutefois, ils sont aussi chez eux dans la communauté de la culture. Ils ne cherchent pas le consentement de Christ vis-à-vis de tout dans leur culture, mais seulement pour ce qu'ils y trouvent de meilleur. Également, ils tendent à séparer Christ de ce qu'ils jugent être les idées barbares ou désuètes au sujet de Dieu et de l'histoire. Sociologiquement, on peut les percevoir comme des non-révolutionnaires qui ne se sentent pas le besoin de postuler des fractures dans le temps. Chute, incarnation, jugement et résurrection. Au premier siècle de l'Église chrétienne, le meilleur exemple, dit Niebuhr, est celui des Gnostiques. À l'ère médiévale, Abélard en est le meilleur exemple, même si sa pensée était très éloignée du gnosticisme. Officiellement, Abélard conteste la façon dont l'Église énonce sa foi. En réalité, écrit Niebuhr, il la réduit à ce qui correspond à ce qu'il y a de meilleur dans la culture. Elle devient une connaissance philosophique au sujet de la réalité, et une éthique destinée à améliorer la vie. C'est à l'intérieur de ce cadre qu'Abélard offre la théorie morale de l'expiation. Comme une alternative, écrit Niebuhr, non seulement à une doctrine difficile pour les chrétiens comme chrétiens, mais à toute une conception d'une action rédemptrice faite une fois pour toutes. Jésus-Christ est devenu pour Abélard un grand enseignant de morale qui, en tout ce qu'il a fait dans la chair, était destiné à notre instruction, accomplissant à un degré plus élevé ce que Socrate et Platon avaient accompli avant lui. Si dans la culture médiévale, Abélard a fait cavalier seul, depuis le 18e siècle, écrit Niebuhr, ses disciples ont été nombreux. Et ce qui était jadis hérésie est devenu la nouvelle orthodoxie. Niebuhr réfère, évidemment, à ce qu'il appelle le protestantisme de culture ou la théologie libérale. Niebuhr perçoit beaucoup de points forts dans cet héritage. Cela a conduit plusieurs personnes, il dit, à Jésus précisément parce que cela ne le présente pas de manière aussi distante que ne le fait la première position. De plus, Niebuhr affirme, les chrétiens culturels tendent à s'adresser aux cultivés parmi ceux qui méprisent la religion. Ils emploient le langage des milieux plus sophistiqués, de ceux qui connaissent les mouvements scientifiques, philosophiques, politiques et économiques de leur temps. Ils sont des missionnaires auprès de l'aristocratie et de la classe moyenne, ou auprès des groupes qui deviennent puissants dans une civilisation. Pourtant, Niebuhr peut formuler certaines objections théologiques et d'un autre ordre à l'égard de cette position. Les chrétiens culturels sont souvent assaillis non seulement par les orthodoxes, mais par les gens de l'extérieur. Les écrivains païens ont critiqué les gnostiques chrétiens. John Dewey, un vrai libéral, rejette le christianisme libéral, de même que Marx. Il se méfie de ce qui, à leurs yeux, est une position de compromis. Ne viennent corrompre la pureté de leur paganisme, ou de leur libéralisme, ou de leur marxisme. Tout comme, de l'autre côté, les orthodoxes se méfient de ce que ces chrétiens culturels aient sacrifié trop de ce qui est essentiel au christianisme. En effet, il est difficile de nier qu'ils prennent des fragments de l'histoire du Nouveau Testament et de son interprétation qui sont complexes, qu'ils nomment cela la caractéristique principale de Jésus, l'élaborent et ainsi reconstruisent leur propre personnage mystique du Seigneur. Ils ne comprennent pas surtout combien le péché est endémique, combien il corrompt non seulement tous les êtres humains, mais aussi toute la nature humaine. Leur moralisme en est un qui comprennent peu le besoin de recevoir cette grâce. Et même Dieu n'échappe pas à leur nouvelle définition. Les gnostiques ont besoin de plus qu'une trinité, les libéraux moins. Partout, la tendance de ce mouvement est de faire correspondre Jésus à l'esprit immanent qui travaille en l'être humain. Troisièmement, Christ au-dessus de la culture. Contrairement à la position Christ contre la culture et contrairement à la position Christ de la culture, celle-ci, Christ au-dessus de la culture, est perçue par Niebuhr comme étant la position majoritaire dans l'histoire de l'Église. Mais elle se présente sous trois formes distinctes et constitue donc les trois dernières entrées de sa typologie en cinq volets. Niebuhr nomme ces trois dernières formes, toutes regroupées, l'Église du centre. Au cœur de cette position se situe un élément confessionnel. L'Église du centre aborde le problème culturel à l'aide d'une conviction théologique. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Fort de cette idée, elle joint à la discussion au sujet de Christ et de la culture une conception de la nature sur laquelle se fonde toute culture, une nature qui est bonne et bien ordonnée par celui à qui Jésus-Christ obéit et à qui il est inséparablement uni. Lorsque règne cette certitude, Christ et le monde ne peuvent simplement être opposés l'un à l'autre, pas plus que le monde ne peut simplement être perçu comme étant le domaine de l'impiété, puisqu'il est au moins fondé sur le monde en tant que nature, et il ne peut exister à moins d'être soutenu par le Créateur et le gouverneur de la nature. Malgré ce point de départ, l'Église du centre croit aussi fermement en l'universalité, et la nature fondamentale du péché, et en la primauté de la grâce et la nécessité des œuvres démontrant l'obéissance, même s'il existe de profondes divergences dans la façon de comprendre la mise en œuvre de ces choses. Ceci étant dit, il existe néanmoins trois groupes, les synthésistes, les dualistes et les conversionnistes. À ce point-ci, Niebuhr se concentre exclusivement sur les synthésistes. Les synthésistes, troisième catégorie maintenant, cherchent une solution que l'on pourrait nommer l'un et l'autre tout à la fois, ou une solution qui cherche à ménager le chou et la chèvre. Le synthésiste préserve le fossé entre Christ et la culture que le chrétien culturel ne considère jamais assez sérieusement et que le radicalisme ne tente même pas de combler. Toutefois, le synthésiste insiste à l'effet que Christ exerce sa souveraineté sur la culture aussi bien que sur l'Église. Nous ne pouvons dire « soit Christ, soit la culture » parce que nous traitons avec Dieu dans les deux cas. C'est ce que suppose la parole de Jésus. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais Dieu reste suprême. » C'est aussi pour cela que nous devons être soumis aux autorités qui nous dirigent, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu lui-même. Romains 13 et 1 Pierre 2. Certaines réponses saintes et sixtes ont été mises de l'avant par Justin Martyr. Toutefois, le premier grand représentant de ce type est un contemporain de Tertullien, c'est-à-dire Clément d'Alexandrie. Mais peut-être le synthésiste le plus important est Thomas d'Aquin, qui représente un christianisme qui a accepté ou obtenu sa pleine responsabilité vis-à-vis de toutes les grandes institutions. Thomas comprenait que Christ est bien au-delà de la culture. Il n'a jamais tenté de cacher le fossé qui existe entre eux. Toutefois, il réussit à unir, sans confondre, philosophie et théologie, l'État et l'Église, les vertus civiques et chrétiennes, les lois naturelles et divines, Christ et la culture. Niebuhr cherche à démontrer ceci par la façon dont Thomas a cherché à synthétiser l'éthique de la culture et l'éthique de l'Évangile, et par sa théorie au sujet de la loi. Mais Niebuhr n'est pas sans voir les problèmes rattachés à une version synthésiste de Christ au-dessus de la culture. Des chrétiens d'autres groupes feront remarquer que ce projet en lui-même mène à une erreur, car s'efforcer de joindre Christ et la culture, la grâce et les œuvres, l'œuvre de Dieu et l'œuvre des humains, le temporel et l'éternel, tout cela dans un système bien conçu mène nécessairement à absolutiser ce qui est relatif, à réduire l'infini en une forme finie et matérialiser ce qui est dynamique. De plus, toutes ces synthèses sont elles-mêmes le reflet de leur propre culture. Par exemple, la vision hiérarchique de l'ordre naturel chez Thomas d'Aquin est historique et médiévale. De plus, comme il a déjà été noté, Thomas manque de compréhension historique. Plus encore, ce profond désir de synthétiser mène à l'institutionnalisation de Christ et de l'Évangile. En effet, même s'ils prétendent le contraire, les synthésistes n'admettent pas le mal fondamental qui se trouve dans toute l'œuvre humaine. Et ceci nous mène à la prochaine section, numéro 4, Christ et la culture en paradoxe. Ceci est le deuxième groupe s'inscrivant dans le courant Christ au-dessus de la culture. Le premier groupe était les synthésistes, voici les dualistes. Pour les dualistes, le problème fondamental dans la vie n'est pas d'établir une séparation entre les chrétiens et le monde païen ou séculier, mais entre Dieu et toute l'humanité, ou, puisque le dualiste est un penseur existentialiste, entre Dieu et nous. Le problème se situe entre la justice de Dieu et la justice de soi. Si nous devons réfléchir à Christ et à la culture, nous devons d'abord nous souvenir de ce que Christ est venu accomplir. Il est venu réaliser le grand acte de réconciliation et de pardon qui a été entrepris par le Christ. Le péché est en nous, la grâce est en Dieu. En un sens, le groupe ressemble beaucoup au premier, au tenant de la position Christ contre la culture, mais à l'intérieur de cette première position, il existe une tendance à mettre l'accent le plus fort sur la distinction entre eux et nous. Dans la position dualiste, au contraire, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous pécheurs. La culture humaine est corrompue. Ceci inclut toute œuvre humaine, non seulement les accomplissements humains à l'extérieur de l'Église, mais ceux aussi à l'intérieur de celle-ci. Non seulement la philosophie en tant qu'œuvre humaine, mais aussi la théologie. Non seulement la défense juive à l'égard de la loi juive, mais aussi la défense chrétienne à l'Église des préceptes chrétiens. Afin de bien comprendre les dualistes, affirme Niebuhr, nous devons comprendre qu'ils ne jugent pas les autres êtres humains, mais qu'ils les jugent tous, eux-mêmes inclus. S'ils parlent de la corruption de la raison, ils incluent la leur. Ainsi, il écrit, les dualistes s'unissent aux chrétiens radicaux en déclarant que la nature humaine dans son entièreté est impie et malade à la mort. Mais il existe cette différence entre eux. Le dualiste reconnaît appartenir à cette culture et ne pouvoir en sortir que Dieu le soutient en elle et par elle. Car si Dieu, dans sa grâce, n'avait soutenu le monde dans son péché, il n'aurait jamais existé, ne fût-ce qu'un moment. Et ainsi, le dualiste ne peut s'exprimer qu'en ce qui semble être des paradoxes. Ces paradoxes débordent dans la loi et la grâce, dans la colère divine et la miséricorde divine. Et le dualiste ne peut évaluer la culture sans penser à ces réalités paradoxales continuelles. Niebuhr soutient qu'il n'existe pas de dualiste cohérent, pur laine, tel qu'il les a décrits, mais il trouve un motif ou un thème central dualiste chez Paul. Un motif qui est employé à un tout autre essai chez Marcion et maintenant plus fidèlement chez Augustin et puissamment chez Luther. Niebuhr présente deux ou trois exemples de dualistes venus après Luther, dont Kierkegaard par exemple. Il mentionne ensuite les deux accusations les plus courantes provenant des autres groupes. Premièrement, le dualisme tend à conduire les chrétiens vers l'antinomisme. Deuxièmement, le dualisme tend à conduire les chrétiens au conservatisme culturel. La raison de ce conservatisme culturel, dit-on, est que les dualistes fixent les regards sur un seul ensemble parmi les grandes institutions culturelles et les coutumes de leur époque, c'est-à-dire le religieux. Ceci conduit à laisser inchangées d'autres questions, des questions de justice politique par exemple, ou une institution telle que l'esclavage. Et ceci nous conduit à la catégorie finale de Niebuhr, Christ, le transformateur de la culture. Ceci constitue la troisième sous-catégorie du motif Christ au-dessus de la culture. Les deux autres étaient le synthétisme et le dualisme. Ceci est le conversionnisme. Il est essentiel de noter que Niebuhr ne renvoie pas surtout à la conversion individuelle, quoiqu'elles doivent certainement s'y trouver, mais à la conversion de la culture elle-même. La compréhension qu'ont les conversionnistes des relations entre Jésus et la culture ressemble sensiblement au dualisme, mais ils affichent aussi des liens de parenté avec les autres grandes pensées chrétiennes. Mais qu'il s'agisse de motifs distincts cependant, ce qui distingue les conversionnistes des dualistes est leur attitude plus positive et pleine d'espoir vis-à-vis de la culture. Cette attitude plus positive à l'égard de la culture, écrit Niebuhr, se fonde sur trois convictions théologiques. Premièrement, alors que les dualistes ont tendance à voir en la création divine une mise en scène de la puissante œuvre rédemptrice de Dieu manifestée par la croix et la résurrection de Christ, les conversionnistes mettent plus d'accent sur la création. Quoique l'on ne permette pas à la création de vaincre la rédemption ou d'être vaincue par elle, la création n'est pas seulement le lieu de la rédemption, mais la sphère où s'accomplit l'œuvre souveraine de Dieu, là où il gouverne et poursuit son œuvre. Deuxièmement, alors que les dualistes courent parfois le danger de traiter la matière et même l'identité humaine comme étant intrinsèquement mauvaise, menant ainsi à percevoir les institutions de la culture comme ayant une fonction surtout négative dans un monde temporel et corrompu, les conversionnistes soutiennent que la chute est morale et personnelle et non pas physique et métaphysique, bien qu'elle ait des conséquences physiques. Troisièmement, les conversionnistes adoptent une vision de l'histoire stipulant qu'à Dieu tout est possible à l'intérieur d'une histoire qui n'est pas une suite d'événements humains seulement, mais qui est toujours une relation remarquable entre Dieu et les êtres humains. En effet, le conversionniste possède une composante réalisée plus forte dans son eschatologie que la plupart des autres chrétiens. Niebuhr trouve que ce motif est particulièrement prononcé dans le quatrième évangile. Sans le Logos, rien n'a été créé. Le monde qu'il a créé est son chez-soi. Jean n'aurait pas pu dire plus fortement que ce qui est bien. Et pour cet évangéliste, la naissance naturelle, manger, boire, le vent, l'eau, le pain et le vin sont non seulement des symboles à employer lorsqu'on traite des réalités de la vie de l'esprit, mais ils regorgent de significations spirituelles. Le monde est simultanément la totalité de la création et surtout de l'humanité comme l'objet de l'amour de Dieu, Jean 3,16. Il est aussi employé pour dessiner l'humanité dans la mesure où elle rejette Christ, vit dans les ténèbres, accomplit des œuvres mauvaises, ne connaît pas le Père, se réjouit au sujet de la mort du Fils. Mais Jean ne nous donne pas une doctrine abstraite du péché, plutôt il l'illustre, tout en refusant de le définir. À l'intérieur de ce cadre, le don de Dieu accordé en Christ est la vie éternelle. Mais, Niebuhr dit, l'eschatologie du quatrième évangile est tellement réalisée, inaugurée, que l'on peut jouir de cette vie fondamentalement maintenant, avec tout ce que cela entraîne pour l'existence humaine et la culture. Niebuhr concède, nous ne pouvons interpréter le quatrième évangile comme un document entièrement conversionniste. Non seulement en raison de son silence à plusieurs égards, mais aussi du fait que son ton universaliste s'accompagne d'une tendance particulariste. On retrouve le même genre de tension, déclare Niebuhr, dans la lettre à Diognète, qui date du IIe siècle. Mais c'est chez Augustin et chez d'autres conducteurs du IVe siècle qu'émerge plus clairement l'attente d'une régénération universelle par Christ. Cependant, Augustin n'amène pas ce programme conversionniste à son aboutissement logique. Il n'attend pas avec espérance la réalisation de cette grande possibilité eschatologique, écrit Niebuhr, démontrée et promise dans le Christ incarné, la rédemption du monde créé et corrompu et la transformation de l'humanité dans toute son activité culturelle. Plutôt, il saute à la vision eschatologique d'une société spirituelle, composé d'individus humains, élus avec les anges, vivant dans un parallélisme éternel, en compagnie des réprouvés. Niebuhr trouve ce pas est difficile à saisir, et qu'il est incompatible avec ce qu'il croit être la position principale chez Augustin, une position conversionniste. Il faut que nous nous souvenions la conversion de la culture, pas de l'individu encore. Calvin, écrit Niebuhr, est semblable, avec les mêmes problèmes. Et va dans le même sens d'Augustin. Wesley s'inscrit dans cette même tradition, mais affermit son héritage conversionniste en devenant l'apôtre du perfectionnisme. Mais l'apogée de ce processus se trouve chez F.D. Maurice, un théologien anglais du XXe siècle, qui est, selon Niebuhr, avant tout un penseur joannique. Maurice voit toute personne comme étant en Christ, et l'apogée de la destinée humaine se trouve en une conversion culturelle telle qu'en fin de compte, la prière de Jésus en Jean 17 sera exaucée. Tous deviennent un, comme le Père et le Fils sont un. Ce qui a fait de Maurice le plus cohérent des conversionnistes, cependant, était le fait qu'il maintenait le principe à l'effet que Christ est roi, que les hommes devaient donc tenir compte uniquement de lui et non de leur péché. Car fixer notre attention sur le péché comme s'il s'agissait en réalité du principe directeur de l'existence était de s'enforcer dans encore plus dans l'autocontradiction. Niebuhr cite Maurice. Je me dois de croire en un abîme d'amour qui est plus profond que l'abîme de la mort. Je n'ose pas perdre la foi en cet amour. Je m'enfonce dans la mort éternelle, si tel est le cas. Je dois sentir que cet amour lobe l'univers. Je ne peux en connaître plus à ce sujet. Même si Niebuhr ne souscrit jamais à un des cinq systèmes dont il traite dans son volume, ce qui surprend au sujet de ce cinquième paradigme est le fait que Niebuhr n'en présente aucune critique négative de quelque sorte que ce soit. La plupart des spécialistes croient ainsi que Niebuhr souscrit à ce système, le cinquième. Il est difficile de surestimer l'influence du modèle en cinq temps de Niebuhr, surtout dans le monde anglophone, mais presque partout dans l'Occident. Notre prochaine étape consiste à évaluer, à la fois selon ses propres termes et à la lumière de la théologie biblique. Mais je réserve cela pour demain.